cours de philosophie première par le Père Marie Dominique Philippe à Saint-Jaudard, le 17 juin 1993.
Une petite question. L'art transforme en premier lieu le milieu. Pouvez-vous préciser comment le travail modifie et éduque la personne? Par ailleurs, comme c'est l'intelligence qui structure la personne, est-ce que le travail, par l'intelligence pratique, structure la personne? Est-ce que le philosophe peut parler d'une nécessité du travail? Alors, l'art transforme en premier lieu le milieu. La matière, je ne dirais pas le milieu en premier lieu. Le milieu est transformé par l'œuvre de l'art. Mais l'art ne transforme pas en premier lieu le milieu. Mais le milieu, c'est la culture, le milieu dans lequel on est. Alors, l'art est efficace sur le point de vue de la matière. Ça n'a l'air de rien de dire ça, mais c'est quand même très important. On ne transforme pas un milieu. On modifie les personnes qui, elles, agissent sur le milieu. Et prenez le milieu du noviciat. C'est très intéressant de raisonner. Vous voyez, les murmures veulent transformer le milieu. C'est pas de l'art. Là, je vous coince. Vous voyez, le murmure transforme un milieu. On peut faire sauter un milieu par le murmure. C'est pour ça que Saint-Benoît est si farouche contre le murmure. Parce que le murmure attaque le milieu, parce qu'il enlève la confiance. Le milieu est avant tout moral, et c'est la confiance par rapport aux personnes, mais pas l'art. L'art édifie, l'art construit. C'est juste l'inverse, d'une certaine manière. Et c'est ça, je crois qu'il faut bien comprendre, vous voyez. C'est le milieu, comme tel, est fait d'une quantité de choses. Hein. C'est très difficile d'analyser exactement tous les éléments d'un milieu. L'art construit et édifie. Transforme la matière. La matière du milieu dans lequel on est. Et par le point de vue des œuvres, modifie les personnes. Et vivre dans un milieu de d'art, comme devait être Éphèse dans le temps. Que de vivre dans le désert. Pas la même chose. Et Malraux soulignerait que quand l'art est ramené au musée, c'est un phénomène très particulier au point de vue du milieu. Parce que dans un musée, on fait un milieu clos, qu'on visite. C'est plus le milieu de vie. On conduit les gosses à faire des visites. C'est dans les musées, évidemment. Et on croit qu'on leur donne une culture. Pas du tout. C'est assez superficiel. Malraux souligne ce point de vue-là, et ça, je crois qu'il a tout à fait raison. C'est un phénomène, vous voyez, d'usure, ça, le musée. Les Grecs ne pensaient pas au musée. On vivait dans le musée, c'est-à-dire que ce n'était pas un musée. Faire d'une maison un musée, c'est assez curieux. Il y a des gens qui font de leur maison un musée. Bah, c'est tout. personne. Je transforme la matière et la matière me transforme. Donc, c'est très difficile à préciser parce qu'il faudrait regarder tous les niveaux différents de travail. Demander aux frères cuisiniers comment faire la cuisine le transforme. Parce que en faisant la cuisine, il transforme une matière. C'est évident. Qu'on utilise, on n'en fait pas un musée. De temps en temps, on en fait un musée quand on prévoit un grand repas très important à Paris. Alors, on prépare. Rempli tous les frigos en attendant qu'ils soient utilisés. C'est très, très, très curieux, ça. Mais normalement, le travail modifie parce que l'homme est tout entier attentif à ce qu'il fait. Donc il y a d'abord ce fait que le travail éduque notre volonté. C'est dans ce sens-là que le travail est un élément primordial de rééducation ou d'éducation. Tant que quelqu'un travaille, ça va bien. Quand quelqu'un ne travaille plus, qu'il vient un dilettante, c'est très dangereux. Il y a des mœurs de travailleurs. Et des mœurs de travailleurs, tant au point de vue intellectuel qu'au point de vue manuel. On fait un travail propre, un travail net. Vous voyez, alors, ça éduque en ce sens que ça nous oblige d'être présent à ce qu'on fait. Et ça mobilise, on dirait aujourd'hui, ça focalise notre volonté. J'aime pas beaucoup ce mot parce que c'est tellement vague, mais ça détermine notre volonté dans une certaine finalité. On fait une œuvre. C'est en ce sens-là que pour le faire des petits travaux qu'on vous demande de faire pendant l'année, ça vous éduque. Et ça vous oblige à passer un examen, puisque c'est le jour. Passer un examen, c'est un travail où on vous mobilise pendant tant d'heures. Ça vous éduque. D'abord, ça vous montre que vous ne savez pas grand-chose. Ça, c'est quand même quelque chose. C'est une épreuve. On est devant un bout de papier blanc et il suffit d'être en face d'un papier blanc pour ne plus rien savoir. Alors, à ce moment-là, on n'a plus qu'à prier. Et puis, ça vient. Donc, ça mobilise, ça éduque la personne. Il y a uniquement cet élément-là. Il y a en plus que tout travail implique une certaine lutte. Alors, ça nous donne un sens du réalisme. On n'est plus élevé dans du coton. Un travailleur n'est pas élevé dans du coton. Il est toujours en présence d'une matière. Jusque même le travail intellectuel, on est présent sur une matière très évoluée, une matière très, si vous voulez, pleine de déjà très transformée par l'homme, mais c'est quand même une matière. Vous voyez, quand vous devez faire une thèse et quand vous regardez toute la formation, tout ce qui a été écrit là-dessus, vous êtes obligé de regarder une vingtaine de bouquins. Ça vous éduque. Pourquoi ? Parce que ça vous fait comprendre un patrimoine. Il faut comprendre ce que c'est qu'un patrimoine. Comment une culture, elle est enracinée comme un arbre. Alors, un arbre très enraciné, très vieux, très difficile. Évidemment, on peut le couper. C'est tout ça, vous voyez, le fait qu'on est modifié par le travail. un travail purement intellectuel, philosophique, de travailler, quoi, chercher toute l'information qu'il faut. Et essayer de réfléchir après. Parce que l'information peut vous étouffer. Alors, c'est à ce moment-là, vous voyez, c'est que justement, votre travail n'est plus assez humain. Et vous êtes étouffé par la quantité. Les mœurs de travail font que même quelqu'un qui est habitué à des travaux durs et quelqu'un qui est habitué à des travaux intellectuels, on se retrouve. Il y a des mœurs de travailleurs. Alors, ça vous donne un certain habitus. Ou au moins... Ça regarde l'efficacité. c'est très juste de dire modifier le travail, modifie, parce que c'est de l'ordre de la disposition. Je ne dirais pas qu'il transforme, mais il nous met dans des dispositions particulières. Et vous voyez ça très fort dans le point de vue de la virtuosité. Par ailleurs, comme c'est l'intelligence qui structure la personne, est-ce que le travail, par l'intelligence pratique, structure la personne ? Non, le travail est de l'ordre du devenir, donc ne structure pas. Qu'est-ce qui structure ? Ce sont les principes. Et c'est pour ça que c'est l'intelligence qui structure. Les principes donnent la finalité, donnent une structure. Mais le travail qui est de l'ordre du devenir ne structure pas, mais modifie. Si vous faites une différence entre structurer et modifier, le point de vue de la modification, c'est du côté du comment, de la disposition, et la structure, c'est du côté des principes. Est-ce que le philosophe peut parler d'une nécessité du travail ? Je comprends qu'il peut en parler, puisqu'il est introduit dans la personne. Le philosophe regarde en premier lieu la personne humaine. C'est son travail propre. En premier lieu, il regarde l'homme. Et au terme de la philosophie première, donc au sommet de tout l'édifice philosophique, c'est la personne. Or, la personne intègre le travail. Il y a deux points de vue très importants. On va le voir en le précisant encore. Le point de vue de l'éducation et le point de vue du travail. Mais c'est deux choses différentes. L'éducation implique une intériorité. Le travail implique des chantiers. Il y a des chantiers où on travaille. Et l'éducation, c'est une réflexion beaucoup plus profonde pour comprendre ce que sont les intentions de notre vie. On éduque d'abord en donnant le sens de l'intention de la vie. Tandis que le travail, on l'éduque par l'exercice. Je crois que c'est très important de bien distinguer les deux. Et là, on voit très bien la nécessité à la fois de la paideia, de l'éducation, et le point de vue du travail par le point de vue du devenir, dans l'ordre de la disposition. Il ne faut pas mêler les deux. Relecture au point de vue psychologique, est-elle éducation ou est-elle ou la relecture est-elle un travail ? C'est la question que je me pose. Et quand on vous dit il faut nécessairement la relecture pour comprendre au point de vue travail, mais pas au point de vue éducation. J'ai toujours peur qu'au point de vue psychologique, on confonde les deux. Alors, je crois qu'on éduque vraiment quelqu'un et une personne humaine que lorsque on voit bien les diverses finalités, ce que le travail peut nous apporter, ce que le travail ne peut pas nous apporter. Autrement, on devient une bête de somme. Éduquer l'humanité en faisant une bête de somme, c'est triste. C'est de regarder uniquement l'efficacité. L'éducation n'implique pas l'efficacité. Un examen de conscience et une relecture, est-ce que c'est la même chose ? Il faut se poser la question. Très très important ça. là où vous voyez la place du travail. Vous voyez, ça m'a beaucoup frappé une fois, au moment où je m'occupais beaucoup des rapports entre la morale et le point de vue de l'art, tant au point de vue des secrétaires des syndicalistes qu'auprès des patrons. Et à ce moment-là, j'ai visité quelques usines autour de Paris. J'en ai vu une, entre autres. Ceux qui étaient les PDG me disaient leur intention propre. C'était, dans un travail de série, de voir quand l'œuvre passait, de voir s'il n'y avait pas de défaut. Et celui qui découvrait un défaut, donc on faisait arrêter, avait une prime. Et ceci pour essayer de rendre le travail plus qualitatif. Et surtout l'œuvre, pour que l'œuvre qui sorte de l'usine soit impeccable. Et il me disait, c'est très rare qu'on fait ça, mais on le fait dans notre usine. Leur souci était, comme toujours, d'un point de vue économique, c'était le souci de dépasser ce que les Japonais faisaient. Et se demander justement, c'était pas de ce côté-là qu'on pouvait essayer de maintenir quelque chose de plus qualitatif. Et c'est toujours la même question. Quand on étudie les différents moments de l'activité artistique, les différents moments du travail, on voit qu'il y a un moment où la critique doit exister. Est-ce que ce que je fais est bien conforme à l'idéal que j'ai ? C'est ça, la critique. En référence à l'idéal, la critique au point de vue éducatif. Est-ce que je fais est en référence avec l'intention de ma vie? C'est deux choses très différentes. Et si vous mêlez les deux, vous êtes coincé. Parce que la relecture est une critique, comme toute attitude réflexive. L'examen de conscience et la critique de la durée. Et le point de vue de la critique du travail, c'est par rapport à l'œuvre. Alors la relecture est différente quand il s'agit du fait duré et quand il s'agit de la durée. On ne peut pas mêler les deux. Mêler les deux, c'est oublier que l'homme doit être lucide dans ces différents points de vue. Alors, le philosophe parle de la nécessité du travail pour maintenir en lui un réalisme constant. Parce qu'il a une matière à transformer. Et que cette matière, il doit l'aimer. Il doit la respecter. La transformer comme il peut et qu'il doit la transformer. Et la nécessité du travail, c'est parce que l'homme a besoin de cette transformation de la matière. Il est dans un univers qu'il doit transformer. Il est près d'une matière qu'il doit transformer. Et la première matière qu'il transforme, c'est lui-même, c'est son corps. C'est pour ça qu'après étudier la place du travail, de l'art dans la personne humaine, on regarde le corps et on regarde l'univers. Je ne peux pas comprendre ce qu'est la personne humaine dans toute sa dimension si je ne regarde pas le corps et l'univers. Être dans le monde, ça fait partie de ces expressions nouvelles de la philosophie contemporaine. Être dans le monde, où ça se situe? C'est quand même très important, ça. Comme la situation limite, on verra ça après. serait du reste très intéressant de voir comment Platon, grand-père de Lénine et père de Descartes. Parce que si c'est ça, il est le père de Descartes et le grand-père de Lénine. Alors il faut saisir ce point de vue-là. C'est pas contradictoire. Pourquoi ? D'un côté, je cherche les principes propres. Qu'est-ce que c'est que la matière ? La matière est pure puissance, matière première. Pure puissance. Donc, elle ne structure pas l'être. Parce que l'être est substance. L'être est acte. En premier lieu. Et c'est en saisissant l'être comme acte que je vois qu'il ne peut pas être structuré par la matière. Et d'autre part, quand je regarde la personne, je regarde le comment de l'être. Comment j'existe. J'ai une manière d'exister. J'existe comme une personne. Et tout ce que je fais qui relève de mon « je suis » et personnel implique donc matière et forme. Tout ce que je fais, même ma contemplation, c'est ma contemplation humaine. Parce que c'est une contemplation humaine, il y a un petit lien, un cordon ombilical spirituel avec mon corps. Je ne peux pas dire que quand je contemple, je laisse mon corps. C'est pour ça qu'il y a une manière d'être qui joue pour la contemplation. Une manière d'être au point de vue corporel. On pourrait se demander si la position du lotus est compatible avec la contemplation philosophique. Il faut aller jusque-là, autrement, on ne voit pas certaines choses. C'est comme ça qu'on peut regarder que le Zen et la méthode transcendantale du Zen est en contradiction avec une personne qui intègre le corps. Parce que là, on veut nier le corps pour trouver quelque chose de purement éthéré. C'est faux. La contemplation est réaliste. Elle est le fruit de la personne. Elle est même ce qui est le sommet de la personne humaine. Le contemplatif, c'est la personne humaine parfaitement réalisée. Et comme le corps est essentiel à la personne humaine, le corps est intégré dans la contemplation, pas du tout en la structurant. Et ça, c'est le propre du pose. C'est que le pose intègre même des éléments non structurables, non structurés, ou non structurables, plus exactement. C'est très curieux, ça. Parce que le pose, c'est la manière d'être. Or, j'ai une manière d'être qui est celle de l'homme. Mais c'est là où la nature est intégrée dans la personne. Opposer nature et personne, c'est parce qu'on ne comprend pas ce que c'est que la personne. On fait de la personne une substance pensante. Alors on n'intègre plus le corps. Mais la personne n'est pas une substance pensante. La personne, c'est un tout qui implique des quantités d'éléments, des quantités de dimensions, toutes unifiées par la finalité. Un corps sain, S-A-I-N, la santé du corps, réclame la finalité de l'âme. Parce que vous comprenez très bien que le corps malade augmente la limite de la personne. Ça, c'est sûr. Je ne peux travailler qu'une heure par jour. Je ne peux contempler qu'une heure par jour. vieux. Parce que j'ai mal à la tête. Parce que ça va plus du tout. Je suis complètement dératé. Les pneus sont complètement usés. Je dérape tout le temps. Vous voyez, donc, et ça joue quand même. Ça joue même jusque dans la contemplation. Je parle de la contemplation philosophique. Je parle pas de la contemplation mystique. Mais il faut bien comprendre ce que c'est que la contemplation philosophique pour comprendre ce que c'est que la contemplation mystique. Si je ne comprends pas la contemplation philosophique, je ne pourrai pas, au point de vue théologique, montrer ce qui caractérise la contemplation mystique dans toute sa force. Je pourrais décrire, mais je ne pourrais pas montrer la différence. C'est là où la théologie mystique intervient. Et je risquerai tout le temps, en décrivant, c'est très bien, mais de déraper. Quel est le rôle du corps dans la contemplation mystique ? C'est très important. Ici, je regarde le point de vue philosophique. Mais après, il faudrait regarder la contemplation mystique. On pourra le faire le soir. Parce que le soir, c'est théologie mystique. Alors, on peut le faire. Et c'est important. Et c'est très important de regarder la place de l'incarnation dans la contemplation mystique. Ne pas déraper. Alors, comprenons que le corps est intégré dans la personne comme un élément substantiel, je dis bien, mais substantiel au niveau du pose, donc au niveau de l'exercice. On peut être substantiel comme principe, on peut être substantiel comme exercice, dans l'ordre de l'exercice. Un élément substantiel qui conditionne tout l'exercice humain. Toute ma vie humaine est conditionnée par mon corps. C'est pour ça que c'est essentiel, c'est pour ça que c'est substantiel. Parce que c'est toujours présent. Le corps est toujours présent. Et quand vous dormez, le corps règne. Chaque soir, avant de s'endormir, le corps émerge et dit à l'âme, tais-toi, à l'âme spirituelle, tais-toi, je veux régner. Et le corps règne dans le sommeil. Il se refait. C'est pour ça que c'est si beau de regarder un petit enfant qui dort. C'est admirable. C'est curieux ça, parce que le sommeil de l'enfant est admirable. Vous regardez là, leur point de départ, hein, comment le corps d'un tout petit enfant règne dans le sommeil. Celui qui n'a jamais vu ça, il y a des choses qu'il ne comprend pas. Le corps règne dans le sommeil. Et il se remet au rythme de l'univers. C'est pour ça que c'est si important de savoir où l'on va dormir et que des êtres très sensibles, il y a des lieux où ils ne peuvent pas dormir. Et on ne dira pas que c'est le caprice, non, c'est comme ça. Tandis qu'ils pourront travailler beaucoup plus en beaucoup plus de différents lieux. Parce qu'un travail, c'est l'esprit. Or, quand je travaille par l'esprit, je ne suis plus dépendant de l'univers. Je suis conditionné par l'univers. Alors, il peut y avoir la situation limite. Ce qu'on verra après. Mais je vois d'abord le point de vue normal du corps, qui est le conditionnement de toute ma vie humaine. Et donc de ma personne humaine. Je suis conditionné par mon corps. Vous voyez, c'est là où Maritain s'est trompé. Il faut dire les choses par leur nom. Quand il a opposé personne et individu, l'individu n'oppose pas personne et individu. Je dis la personne intègre l'individu. Mais l'individu ne détermine pas la personne. Alors Maritain est trop cartésien quand il dit justement que l'individu est autre chose que la personne. C'est qu'il n'a pas compris comment l'individu, c'est le corps. Et que le corps conditionne toute la personne. Donc il ne faut surtout pas opposer conditionnement et personne. Et c'est très important de comprendre que le corps conditionne. Parce que par là, je donne le fondement à la psychologie. C'est par le corps que la psychologie peut être intégrée dans la personne. Et c'est toujours la référence au corps, et pas à l'âme spirituelle. Or, la plupart des psychologues, aujourd'hui, sont cartésiens. Freud est cartésien. Quand j'ai dit ça une fois à une freudienne, elle a bondi. Je dis, mais écoutez, non. Il n'est pas aristotélicien, Freud. Pas du tout. Il est freudien. Il est cartésien. Freud, c'est un super Descartes. C'est très curieux de voir ça. Et c'est très intéressant de voir ça. Là, c'est, je vous dis, c'est par l'expérience que je l'ai vu. Hein. C'est pas en étudiant Freud. C'est en voyant des freudiens travailler. Il y a rien de comprendre. Mais la méthode. Chez Descartes, la méthode, ça prime l'objet. Et chez un freudien orthodoxe. Donc un super Descartes. C'est un super au carré. La méthode joue un rôle capital. Faut pas. Quand vous allez contre la méthode, vous êtes en face d'un freudien très intelligent qui dépasse Freud et qui revient à réalisme. C'est quand même très important de saisir ça, de saisir le lien. Et tout ça relève du fait que le corps est intégré dans la personne comme conditionnement. La psychologie regarde le conditionnement. Donc la psychologie est toujours en référence au corps. Et un vrai psychologue doit regarder comment le corps conditionne. C'est par là que la psychologie, la psychologie du thérapeute et la psychologie au point de vue de l'éducation peut être intégrée. Alors, regardons comment le corps conditionne. Ici, je fais appel aux 3 degrés de vie. Le corps conditionne la vie végétative. Ah, dans la vie végétative, le corps règne. Ah, ça, c'est sûr. Parce que quand vous mangez du pain, ou quand vous mangez un beefsteak, c'est très différent, n'est-ce pas ? Point de vue du goût artistique, c'est pas la même chose. Même si c'est un beefsteak complètement fabriqué, qui n'a plus rien de la vache, ou du taureau, qui n'est pas charolais. Parce que c'est ça l'avantage du charolais, c'est que quand vous avez un beefsteak vraiment qui sort directement du pays, vous savez ce que c'est. La vie végétative domine la matière. J'assimile le charolais. J'assimile le pain. J'assimile le café ou le thé. Alors, si l'aliment ne peut pas être dirigé, il est rejeté. Et quand je ne suis plus capable de rejeter ce que je n'assimile plus, vous savez, c'est la catastrophe. C'est l'empoisonnement. C'est parce que votre vie végétative est en état limite. Vous n'assimilez plus. C'est, on voit ça, c'est terrible. vivant, quoi. Il assimile presque tout. Pas tout, quand même. C'est le bois qui assimile tout. Mais voyez cette chose extraordinaire. Le discernement que fait l'assimilation de la vie végétative dans l'homme. Il y a un rejet et il y a l'assimilation. Donc, le point de vue transcendantal du sujet qui fait un discernement. Le discernement, c'est le vivant qui assimile. Quand le vivant assimile, vraiment, la vie végétative domine et transforme l'aliment dans le vivant et fait que le vivant peut progresser, peut vivre. Le jour, il n'assimile plus et il n'assimile plus quand il ne fait plus le discernement. Il est dominé par l'aliment. Et il en meurt. J'allais presque dire que la mort, c'est la victoire de l'aliment. Vous voyez dans quel sens ? Parce que l'aliment n'est plus assimilé. Ou bien on pourrait dire que la mort, c'est justement quand il n'y a plus d'aliment. Il n'y a plus rien qui peut être assimilé. Et en dernier lieu, c'est l'oxygène. Matériel des stationnement, mais le corps est réintroduit par l'imaginaire au niveau de la détermination spécifique. Vous voyez, c'est ça qui est très important à souligner. C'est le rôle de l'imaginaire au niveau de la personne humaine, au niveau du conditionnement et de la spécification, de la détermination. C'est l'imaginaire qui est la plaque tournante. C'est l'imaginaire qui va jouer un rôle capital pour tout orienter vers la cause matérielle ou au contraire permettre de dépasser la cause matérielle. C'est l'imaginaire qui permet de comprendre une psychanalyse matérielle, une psychanalyse spirituelle. Puisque la psychanalyse joue au niveau de l'imaginaire. Le vécu est toujours imaginaire. S'il n'était pas imaginaire, il n'y a pas de vécu. Le vécu n'est pas purement spirituel. C'est important, vous voyez, de situer le conditionnement du corps selon les trois niveaux de vie et bien comprendre la distinction entre les trois niveaux de vie. Donc de distinguer au point de vue psychologique trois niveaux psychologiques. Le niveau de ma vie végétative, ça joue un rôle très important, ma vie végétative. Lorsqu'on est en train de m'empoisonner, c'est pas drôle pour ma vie végétative. Le niveau passionnel est sensible et imaginatif. Et le niveau spirituel. Or, la personne humaine n'est structurée que par le spirituel. Mais elle est conditionnée substantiellement par ma vie végétative et ma vie passionnelle. L'imagination est donc ce qui conditionne ma personne humaine au niveau du vécu d'une façon essentielle. Je suis conditionné par l'imaginaire, comme je suis conditionné par mon corps. De se tiennent. Voyez, je ne peux là, puisqu'on est obligé d'aller assez vite, je ne peux là que vous situer, mais il faudrait travailler tout ça. Ce serait très intéressant, parce que c'est par là que l'intégration peut se faire du point de vue de la psychologie par rapport à la personne saisie au niveau métaphysique. Or, c'est le grand problème d'aujourd'hui. Le grand problème d'aujourd'hui, c'est de voir les liens profonds qui existent, qui peuvent exister entre une psychologie qui se veut réaliste et une personne, une métaphysique qui se veut réaliste. Vous voyez, le réalisme du métaphysicien n'est pas le même que le réalisme du psychologue. Alors, je ne peux pas maintenir la dualité.